merci à tous de me donner l'opportunité de partager avec vous la parole de Dieu. Il est 11h, donc je vais prendre une demi-heure. C'est un message que j'intitule « Un encouragement pour les pauvres et les infirmes ». Un encouragement pour les pauvres et les infirmes. Alors, tout d'abord, on va voir que pauvreté et infirmité, infirmité et pauvreté, normalement, ça va ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va, c'est plus trop synonyme, mais dans toutes les époques de l'histoire humaine, infirmité et pauvreté allaient ensemble. Et les gens qui étaient valides n'étaient pas trop pauvres. Enfin, il y avait des pauvres qui étaient valides, mais en tout cas, infirmité et pauvreté allaient ensemble, ça va encore ensemble. C'est pour ça que le message s'intitule « Un encouragement, une consolation pour les pauvres et les infirmes ». Alors, le message, donc, il est basé sur le passage dans Acte 3. Donc, si vous voulez bien tourner dans Acte, chapitre 3. Et on va étudier les versets 1 à 8. Au départ, je voulais étudier les versets 1 à 16. Mais en fait, il y a tellement à dire que on va se cantonner au verset 1 à 8. Donc, je vais lire. C'est l'Oscar Wilde de 1996. Acte 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui était la neuvième. Et il y avait un homme impotent dès sa naissance, qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui, avec Jean, lui dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, la plante de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et sautant, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Merci Seigneur pour ce passage d'acte, et Seigneur, je t'en prie, aide-moi à tirer les enseignements adéquats de ce passage. Amen. Alors, tout d'abord, on va voir principalement trois éléments. Tout d'abord, on a, au verset 2 et 3, on a connaissance d'un homme qui est donc impotent dès sa naissance, verset 2, et il y avait un homme impotent dès sa naissance, qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc en fait là, j'aime bien quand je lis ce verset, je trouve qu'on a un aperçu en fait du système de sécurité sociale de Dieu. Parce que là, on a tous les éléments, on a un homme impotent, donc impotent ça veut dire qu'il ne peut pas marcher, donc il est infirme, dès sa naissance, donc on appellerait ça un handicapé. Alors, il ne peut pas porter, il ne peut pas travailler, il ne peut vraiment pas travailler, parce qu'on le porte, il est dit qu'on portait, donc on est même obligé de porter cet homme pour l'amener à l'endroit où il va mendier. Et donc c'est pour donc qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc là, on a un magnifique exemple. Enfin, magnifique exemple. C'est un peu triste, bon, c'est un infirme, mais on a un bon exemple du système de sécurité sociale qui est prévu par Dieu, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas travailler peuvent recevoir l'aumône. Et là, cet homme-là ne peut pas travailler parce que même on est même obligé de porter pour l'emmener à cet endroit où il demande l'aumône. Verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple leur demanda l'aumône. C'est ça qui fait, quand il voit quelqu'un qui va entrer dans le temple, il leur demande l'aumône. La Bible, Dieu, dans sa sagesse, ne prévoit pas que quelqu'un reste à la maison et reçoive l'argent à ne rien faire. Voilà. La Bible ne parle pas d'un système de sécurité sociale où les gens profitent du RSA, par exemple, typiquement c'est ça, ne font rien et profitent du RSA. C'est quelque chose que je ne pensais pas que c'était possible, parce qu'en fait, je pensais que pour toucher le RSA, il fallait chercher activement du travail, auprès de Pôle emploi, Et alors, on est supposé chercher du travail quand on est au RSA, mais quelqu'un m'a dit, apparemment, on n'est même pas obligé, alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais apparemment, pour être au RSA, on n'est même pas obligé de chercher du travail. C'est-à-dire qu'on peut rester là tranquille, parce que le RSA, c'est la CAF, on peut rester là chez soi, toucher le RSA, et ne rien faire. Et on appelle ça la sécurité sociale. Dieu n'est pas du tout pour ça. Alors attention, là on ne parle pas du chômage, on ne parle pas de la retraite, parce que si vous avez cotisé pour le chômage, si vous avez cotisé pour la retraite, même si vous avez cotisé pour le RSA, c'est acceptable de recevoir ces choses, parce que le système social français vous le permet, donc c'est tout à fait acceptable. Par contre, la personne qui ne veut pas travailler, la personne valide qui ne veut pas travailler, et en fait il y en a, qui gardent et touchent le RSA par exemple, ou alors leurs parents payent pour eux. Par exemple, ça peut être des jeunes hommes qui restent chez leurs parents, qui ne veulent pas travailler. Dieu est totalement contre ça, et c'est méchant de faire ça. Voilà. Mais c'est vraiment différent, c'est différent du chômage et de la retraite. Chômage et retraite, vous y avez droit, vous avez cotisé pour, le système français vous le permet, vous avez tout à fait le droit de le prendre. Là, ce qui n'est pas prévu par Dieu, c'est quelqu'un qui reste à la maison, et qui ne veut pas travailler. La différence, elle est là. La différence, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler ne devrait pas recevoir d'argent, d'aide. Mais si vous avez cotisé pour des choses, c'est ok de prendre ces choses. La différence, elle est dans l'attitude de la personne. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais je vais lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10, 11 et 12. Donc, là, on a... le système donc, de sécurité sociale prévu par Dieu. 2 Thessaloniciens 3, versets 10, 11 et 12. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle à une église. Donc, il y avait plusieurs personnes dans cette église qui avaient des conduites déréglées. Et cette conduite déréglée, c'était des gens qui ne voulaient pas travailler. Car aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, et c'est ça la clé, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Cependant, nous apprenons que parmi vous, quelques-uns vivent dans le désordre, ne travaillent point et s'occupent de choses inutiles. Or, ceux-là, nous les invitons et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler avec tranquillité afin de manger leur propre pain. Donc c'est ça la situation pour les hommes. Les hommes doivent travailler avec tranquillité, c'est-à-dire taisez-vous et mettez-vous au boulot afin de manger leur propre pain. Voilà, pour pas que quelqu'un nous nourrisse alors que nous on fait rien. Non, c'est pas du tout ça. Le programme de Dieu, c'est que les hommes travaillent pour manger leur propre pain. Et au verset 11, il nous dit voilà, quelques-uns vivent dans le désordre, ne travaillant point. Donc ne pas travailler, c'est du désordre. Et donc, au verset 10, c'est très simple, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Donc, pour les hommes, pour résumer un peu tout ça, il y a deux solutions. Il y a deux solutions qui vont se diviser en deux, donc quatre solutions. Soit vous êtes physiquement apte, si vous êtes physiquement apte à travailler, soit vous travaillez, donc ça c'est ce qui est prévu par Dieu, soit vous mourrez de faim. On parle de quelqu'un qui est physiquement apte, on ne parle pas d'un handicapé. Un handicapé ne peut pas travailler. Quelqu'un qui est physiquement apte, soit il travaille, et dans ce cas-là, il mange, c'est ce que veut Dieu, soit il ne doit pas non plus manger. Il ne doit pas manger, il doit mourir de faim. Deuxième cas, la personne est handicapée, infirme, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais soit c'est sa famille qui prend soin de lui, soit c'est demander l'aumône. Voilà, demander l'aumône, et c'est tout à fait légitime de demander l'aumône quand on ne peut pas travailler. C'est pas qu'on veut pas travailler, mais c'est qu'on peut pas travailler. C'est tout à fait légitime de demander l'aumône. Et on a un bon exemple de ça, donc dans Actes chapitre 3, donc cet homme, il est dans la chose normale. C'est normal ce qu'il fait, c'est absolument normal de demander l'aumône. C'est probable qu'il voudrait travailler, mais il ne peut pas. Nous autres qui pouvons travailler, le Seigneur nous commande de travailler. Voilà. C'est très méchant de profiter de quelqu'un d'autre, voilà, ça part d'une mauvaise attitude, de profiter de quelqu'un d'autre, et quelqu'un travaille à notre place pour nous nourrir, c'est très méchant. Encore une fois, je précise, on ne parle pas du chômage, si vous avez droit au chômage, n'hésitez pas, prenez le chômage. Mais ce qui compte, c'est l'attitude. Est-ce que vous voulez travailler ou est-ce que vous voulez profiter de quelqu'un d'autre? C'est ça qui compte. Et en plus, le Seigneur veut que nous aidions de telles personnes. Le Seigneur veut que les gens fassent preuve de miséricorde et justement aident les personnes qui sont dans le besoin. On peut aller dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 28. Donc en Éphésiens chapitre 4, verset 28, la Bible nous dit, donc c'est même un commandement, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc le Seigneur reconnaît qu'il y aura des gens dans le besoin. Des gens qui ne peuvent pas travailler ou qui sont dans une mauvaise passe, il peut y avoir des gens dans une mauvaise passe. Voilà. Celui qui dérobait, donc en langage moderne, ce serait celui qui profitait du système, celui qui vivait au crochet de ses parents, ou qui profitait du système, que celui-là ne fasse plus ça, que celui-là ne dérobe plus, mais au contraire qu'il travaille de ses mains à quelque chose de bon, afin qu'il ait de quoi donner. Donc le Seigneur veut que l'on donne, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin, parce qu'il y aura toujours des gens dans le besoin, et le Seigneur veut que l'on donne, que l'on aide à ces gens-là. Surtout s'il y a des frères et des sœurs parmi nous qui ont des besoins, qui sont dans la difficulté, le Seigneur veut qu'on les aide. Voilà. Mais le Seigneur dit à celui qui est dans le besoin, il ne dit pas d'aider les paresseux. Voilà, parce que la paresse, c'est quand même un péché assez grave. Et le Seigneur ne veut pas qu'on aide les paresseux. Le Seigneur veut qu'on aide ceux qui sont légitimement dans le besoin. Voilà. Je vais vous dire quelques proverbes qui appuient ces choses-là. Donc le fait que l'Éternel veut que nous donnions à ceux qui sont dans le besoin. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel et il lui rendra son bienfait. Donc celui qui a pitié du pauvre, c'est-à-dire si j'ai pitié d'un pauvre et que je lui donne de l'argent, je prête à l'Éternel, donc ça veut dire que l'Éternel voit ça et quelque part il me récompensera d'une autre manière ou plus tard. Et en tout cas, l'Éternel n'oubliera pas ça. Proverbe 22, verset 9. L'œil bienfaisant sera béni parce qu'il aura donné de son pain aux pauvres. Donc l'œil bienfaisant, si mon œil, si je vois un pauvre et que je lui fais du bien, donc l'œil bienfaisant, si je vois quelqu'un qui est pauvre et que du coup je lui fais du bien, eh bien je serai béni, l'œil bienfaisant sera béni parce qu'il aura donné de son pain aux pauvres. Donc le Seigneur bénit si nous donnons des ressources à ceux qui sont dans le besoin. Et Proverbe 14, 31, celui qui fait tort aux pauvres déshonore celui qui l'a fait, mais celui-là l'honore qui a pitié du nécessiteux. Donc celui qui fait tort aux pauvres, c'est-à-dire si vous ne donnez pas à ceux qui ont besoin, vous déshonorez celui qui l'a fait, c'est-à-dire le Créateur. Vous déshonorez le Créateur. Parce que même les pauvres sont aussi faits à l'image de Dieu, autant que vous, autant qu'un riche. Un riche, un pauvre sont tous les deux faits à l'image de Dieu. Donc si vous n'aidez pas le pauvre, vous déshonorez le Créateur. Mais celui-là l'honore, donc vous honorez votre Créateur, vous honorez Dieu quand vous avez pitié du nécessiteux. Celui-là l'honore qui a pitié du nécessiteux. Donc c'est un honneur qu'on fait à Dieu, c'est une louange qu'on fait à Dieu, c'est une bonne action envers Dieu que d'aider les pauvres. Donc Dieu veut qu'on fasse cela. On a un bel exemple de ça en Actes chapitre 3. Deuxième élément que j'aimerais voir avec vous, c'est, donc là on entre, donc il y a un infirme qui est pauvre, ok. Maintenant on va voir un petit peu la consolation de cet état d'infirmité. Donc l'homme, en Actes chapitre 3 au verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Donc il leur demande l'aumône, c'est normal, c'est ce qu'il fait d'habitude. Verset 4, mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui, avec Jean, lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Donc, comme d'habitude, il s'attend à recevoir de l'argent, c'est normal. Verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Donc là, on voit que les apôtres, ils n'ont pas de monnaie à donner. Ils ne lui donnent pas vraiment ce qu'ils s'attendaient, mais en fait, ils ont quelque chose d'infiniment meilleur à lui donner, qui est la guérison au nom de Jésus-Christ. Et donc, une guérison physique ici, donc c'est, évidemment, c'est d'une bien plus grande valeur que, Bon, si je donne 10 euros à un handicapé, ça va l'aider pour une journée peut-être, mais s'il est soigné, bah, ça l'aide pour toute sa vie. Et là, on a une guérison physique, mais ça peut aussi être une image de la guérison spirituelle, donc du salut. Ce que les apôtres ont, c'est une valeur infiniment supérieure à simplement aider un pauvre en lui donnant de l'argent, ce qui est bien. Mais le fait d'apporter Jésus-Christ, le fait d'apporter le salut et la guérison en Jésus-Christ, c'est d'une valeur infiniment supérieure à ce que tout l'argent du monde pourrait offrir. Pour voir ça, on peut aller dans 1 Pierre, chapitre 1, pour voir la valeur immense, la valeur immensément supérieure de ce que les apôtres peuvent offrir, et donc par extension ce que nous pouvons apporter aux gens. Donc la consolation du pauvre, elle est là. La consolation du pauvre, elle est que les richesses de ce monde, ok, on en a besoin, ok, voilà, c'est nécessaire et tout ça, mais le pauvre peut recevoir bien plus. Le pauvre peut recevoir le salut en Jésus-Christ, et le pauvre, une fois qu'il est sauvé, peut apporter le salut en Jésus-Christ. Donc même si monétairement je suis pauvre, et que donc, je ne peux pas forcément faire grand-chose, je ne peux pas forcément aider beaucoup de gens, j'ai quand même, si je suis moi-même sauvé, j'ai quand même quelque chose d'une valeur qui est tellement supérieure à l'argent monétaire qu'en fait, je peux apporter ça aux autres, en fait, je peux leur faire beaucoup plus de bien que si c'était juste de l'argent en monnaie. Donc, on voit ça dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 18, des versets 18 à 21. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 21. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ, destiné déjà avant la création du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu qu'il l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Donc là, il nous dit, surtout verset 18-19, voilà, vous n'avez pas été rachetés, autrement dit, vous n'avez pas été sauvés avec des choses périssables comme l'argent et l'or. Donc là, on remet les richesses matérielles à leur juste place, c'est-à-dire nécessaires, mais qui n'ont finalement aucune valeur au regard de l'éternité. Donc on n'est pas racheté par ça, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ. Donc le sang de Jésus-Christ a une valeur immense et bien supérieure à toutes les richesses matérielles que vous pourriez acquérir et que vous pourriez donner. Donc, vous convertis, vous avez la capacité, même si vous n'êtes pas riche, si vous êtes riche, tant mieux, que Dieu soit loué, mais même si vous n'êtes pas riche, vous avez la capacité d'apporter quelque chose, d'apporter un don d'une valeur infiniment supérieure qui ne peut pas s'acheter avec l'argent et l'or. Donc le riche, il est là, il est dans le monde, il est puissant, il a un problème, il paye. Il veut quelque chose, il paye. Il veut faire du bien à quelqu'un, il peut payer, voilà, il peut faire du bien à quelqu'un. Le pauvre, il ne peut pas faire ça, il n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat. Mais le pauvre, donc ça c'est la consolation du pauvre, et de l'infirme, puisque ces deux choses-là vont ensemble. La consolation du pauvre, c'est que je peux apporter un cadeau d'une valeur inestimable à quelqu'un et on n'a pas besoin d'argent. Priez à Dieu, ça ne coûte rien. Chanter les louanges de Dieu, ça ne coûte rien. Évangéliser, ça ne coûte rien. Vous prenez la Bible, vous parlez à des gens, vous leur montrez, vous leur expliquez, ça ne coûte absolument rien. Ça coûte juste du temps, mais le riche et le pauvre, ils ont du temps, pareil. Donc, voilà la consolation du pauvre. Donc, première consolation du pauvre, c'est que vous pouvez, même si vous n'avez aucune ressource financière, vous pouvez apporter aux gens un don, une valeur qui est inestimable. Donc, pensez-y, si vous vous dites « Ah, je suis pauvre, je ne peux rien faire », ou même si vous êtes riche, tant mieux, mais pensez-y, en fait, vos richesses ne vous permettent pas de faire plus pour Dieu, en fait. En fond, ce qui compte, c'est le spirituel, quoi. Voilà, ça nous encourage à ne pas focaliser notre esprit sur le fait d'acquérir des richesses et tout ça, mais au contraire de se focaliser sur faire le travail de Dieu qui en fait ne coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Si, il y a un loyer à payer, il faut acheter la nourriture, il y a des cantiques à acheter, voilà. Ça coûte quand même de l'argent. Mais le pauvre, il peut quand même prendre sa Bible et apporter le salut, l'inestimable salut en Jésus-Christ à quelqu'un. Voilà. Ce qui est bien plus valable. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici, ce qu'on voit dans Actes chapitre 3. On voit un petit peu ça parce que Pierre, il dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Quand je lis ça, j'ai toujours l'impression qu'il lui dit, « j'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose de bien supérieur. » J'ai quelque chose de bien supérieur. Je le lis un peu entre les lignes. C'est le cas. Donc posons-nous la question, est-ce qu'on veut acquérir de l'argent pour aider les autres? Est-ce que c'est vraiment si bien que ça de vouloir acquérir de l'argent pour aider les autres? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux être plus spirituel afin d'aider les autres sur le plan spirituel? La réponse, elle est évidente. Il vaut beaucoup mieux être plus spirituel soi-même pour pouvoir aider les autres sur le plan spirituel, plutôt que d'être plus riche pour pouvoir aider les autres sur le plan matériel. Il vaut beaucoup mieux être riche, selon Dieu, pour pouvoir aider les autres spirituellement. Donc la consolation du pauvre, c'est que en fait, le pauvre qui est converti, il a quelque chose de bien plus valable que toutes les richesses du monde entier. Proverbe 28,6 dit « Le pauvre qui marche dans son intégrité vaut mieux que celui dont les voies sont détournées et qui est riche. » Voilà, donc il vaut mieux être pauvre et suivre Dieu et être intègre plutôt que d'être riche mais d'être pas intègre. C'est une évidence dans les proverbes. Alors maintenant, pour un petit peu plus consoler les infirmes et les pauvres, on va voir la raison de cette infirmité. Parce que là, en Actes chapitre 3, il y a un homme qui est infirme, il ne peut pas travailler, voilà, c'est triste pour lui. On va voir deux raisons possibles pour l'infirmité de cet homme et donc de n'importe qui. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, pourquoi est-ce que j'ai telle ou telle infirmité, pourquoi depuis ma naissance je suis malade, je suis blessé, voilà, je suis infirme, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi Dieu permet-il que je souffre, pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans le monde? C'est des questions que souvent les gens se posent. Et donc on va donner deux explications, mais ce n'est pas les seules explications, mais c'est des explications. Première explication, donc pourquoi Dieu permet que des gens soient infirmes? Eh bien, première explication, il fallait qu'il y ait des miracles pour approuver les apôtres. En fait, pour prouver qu'ils viennent bien de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, l'apôtre Paul, dans son ministère, plusieurs fois, il y a des gens qui doutent. Est-ce que Paul est vraiment un apôtre? Est-ce que Paul est vraiment légitime? Il discute Paul. Et donc Paul est souvent obligé de se défendre. Et ça pourrait être pareil dans les églises aujourd'hui. Il pourrait y avoir quelqu'un qui conteste l'autorité du pasteur, qui conteste l'autorité d'un évangéliste, voilà. Et Paul était confronté à ça. Donc plusieurs fois, Paul est obligé de se défendre. Donc en 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 12, Paul donc écrit aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience entière, par des prodiges, des merveilles et des miracles. Donc là, il nous dit les preuves de mon apostolat. Donc, les preuves que je suis apôtre, pour bien approuver que je suis légitime dans mon rôle d'apôtre, donc que j'ai l'autorité pour vous enseigner ces choses-là. Paul, c'est ça qu'il dit. Pourquoi on devrait écouter Paul? Pourquoi on devrait considérer que Paul est un apôtre? Il y a des preuves. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience entière. Donc, ont éclaté parmi vous, c'est-à-dire que ça a été visible, quoi. Tout le monde a pu voir les preuves que Paul était un apôtre. Et quelles sont ces preuves? Des prodiges, des merveilles et des miracles. Voilà, des prodiges. Donc, on a d'autres exemples où Paul soigne un homme en Acte 14, miraculeusement. Il y a d'autres exemples. Il y a même carrément un jeune homme qui tombe d'une fenêtre et Paul le relève. Alors, ce n'est pas dit directement que Paul a fait un miracle, mais on devine que Paul a fait un miracle. Paul a fait beaucoup de miracles aussi, donc ces miracles servent à prouver la légitimité des apôtres. Allons ensemble, si vous voulez bien, à Marc, dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Et on va lire les versets 15 à 20. Donc premier point, c'est il fallait qu'il y ait des infirmes pour que des miracles soient faits sur les infirmes pour légitimer les apôtres. Voilà. Deuxième raison pour laquelle... deuxième élément qui a un rapport avec le fait de légitimer donc, les apôtres. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Donc c'est quand Jésus-Christ donne bien sûr ses instructions à ses disciples. Donc il leur dit, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Donc ça c'est vraiment notre programme de base, quoi. C'est la base de notre rôle d'église. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Quand ils auront bu quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc c'est ça l'élément principal, c'est qu'au verset 20, donc le Seigneur opère avec eux, il confirme la parole par les miracles. Donc les miracles sont là pour confirmer la parole. Donc quelque part, ça répond. Donc, c'est une réponse à la question pourquoi il y a des infirmes. Donc, c'est pour que le Seigneur puisse confirmer la parole par des miracles. Il faut que le Seigneur montre. D'abord, quand Jésus était là, il faisait des miracles pour montrer vraiment que lui il soigne. Et ensuite, les apôtres pouvaient faire des miracles similaires pour montrer que eux aussi ils venaient de Dieu, que eux aussi ils étaient légitimes pour justement enseigner toutes ces choses-là. Et on va voir ça et on va finir là-dessus. En fait, en acte 3, le monsieur, il est impotent et en fait, il ne peut pas marcher. Parce que Jésus va soigner les aveugles, Jésus va soigner les sourds, les muets, Jésus va soigner des gens une dame qui saigne, enfin voilà. Là, le monsieur, il est boiteux. Et au verset 7, donc acte 3, verset 7, « Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, la plante de ses pieds et ses chevilles devint ferme, et sautant, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Donc là, on a quelqu'un qui passe du fait d'être allongé, en tout cas, il est par terre, il ne peut pas marcher, à quelqu'un qui est debout, qui marche et qui saute. Et on va voir ça, en fait, ça a été prévu dans l'Ancien Testament. Et ce passage d'acte 3, en fait, il est l'accomplissement. Alors, il y a sûrement eu d'autres occasions, mais ce passage d'acte 3, il est l'accomplissement, en fait, d'une prophétie qu'on voit dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 35. Donc, je vous invite à aller dans Ésaïe 35. Ésaïe 35 nous fait une prophétie qui en fait est accomplie dans acte 3. Et c'est ça qui est intéressant, on lit acte 3, on se dit « Ah oui, c'est l'accomplissement d'Ésaïe. » Et c'est ça en fait que la Bible dit, quand la Bible dit que le Seigneur opérait avec eux, confirmant la parole par des miracles. Parce qu'en fait, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament prévoyait des miracles, prévoyait des guérisons. C'est ce qu'on va voir. Et quand ça se passe à l'époque, les gens, ils se souviennent que c'était écrit dans l'Ancien Testament, et comme ils voyaient ça sous leurs yeux, ils se disent « Ah oui, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de... » On va voir ça dans Ésaïe 35. Donc, Ésaïe 35, je commence au verset 1. « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme le lys. Elle fleurira et elle sera dans l'allégresse. Elle poussera des cris de joie et des chants de triomphe. La gloire du Liban, la magnificence de Carmel et de Saron lui est donnée. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. il viendra lui-même et vous délivrera. Donc là, voilà, là, prenez courage, Dieu va venir, voilà, on annonce l'arrivée de Dieu. Verset 5, alors les yeux des aveugles seront ouverts, des choses que Jésus a fait, et les oreilles des sourds seront débouchées, des choses que Jésus a fait, littéralement, physiquement. 6, alors le boiteux sautera comme un cerf. Et voilà, voilà notre monsieur d'acte 3. Alors le boiteux sautera comme un cerf, prévu par Ésaïe, accompli par les miracles des apôtres, en acte 3. Et la langue du muet chantera de joie, car des eaux jailliront au désert et des torrents dans la solitude. Donc en fait, les gens qui connaissent leur Ancien Testament, à l'époque, donc en Judée, à Jérusalem, les gens qui connaissent leur Ancien Testament, ils voient ça. Ils voient un boiteux se relever. S'ils connaissent un minimum leur Ancien Testament, ils se souviennent, mais l'ancien Ésaïe en parlait, c'est nous déjà, et tout, ils regardent, ah ouais, Ésaïe chapitre 35, bon, à l'époque, il n'était pas chapitre, ils voient ça dans Ésaïe, alors le boiteux sautera comme un cerf, ils voient ça se produire dans la réalité, dans le monde, c'est donc légitime. Les apôtres accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, c'est de là que vient leur légitimité. Parce qu'ils font comme ce que disaient les Écritures. Donc, puisque les apôtres accomplissent Ésaïe 35, verset 6, en l'occurrence, pour notre exemple, il est logique, il est normal, il est absolument normal de comprendre que les apôtres sont aussi porteurs du message qui vient après. Donc on continue à lire Ésaïe 35, verset 7. Le lieu aride se changera en étang, et la terre altérée en source d'eau. Le lieu où les chacals avaient leur gîte sera un parc de roseaux et de joncs. Et il y aura là une route et un chemin. On se souvient que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est le chemin. Et il y aura là une route et un chemin qui s'appellera le chemin de la sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point. Parce que celui qui est souillé n'y passera point, parce que quand on est en Jésus-Christ, Jésus efface toutes nos souillures. Donc, et ceux dont les péchés n'ont pas été effacés, ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, n'entreront pas au paradis. Voilà, ne prennent pas ce chemin-là, n'entreront pas au paradis. Celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour eux seuls. Donc c'est seul le peuple de Dieu, seuls ceux qui auront été sauvés. Mais il sera pour eux seuls, deux points, ceux qui marcheront dans ce chemin, même les insensés ne s'égareront point. Ça veut dire que si vous êtes sauvés, même si plus tard dans votre vie, bon, vous faites des trucs un peu fous, insensés, vous continuez dans le péché, si vous êtes insensé, par exemple, il se peut que quelqu'un commette la fornication après avoir été sauvé, c'est possible. Ou d'autres péchés graves, des choses complètement insensées, ben, ceux qui marcheront dans ce chemin, même les insensés, ne s'égareront pas. Donc, même si vous êtes insensé, vous n'avez pas de sagesse, si vous êtes sauvé, vous ne vous égarerez pas. Ça, c'est l'assurance du salut. On trouve l'assurance du salut ici. Quand on est sauvé, on ne peut plus s'égarer. On n'est pas perdu, on n'est plus perdu. On ne peut plus s'égarer. Verset 9, il n'y aura point là de lion, les bêtes farouches n'y monteront pas, donc plus de violence, voilà, et ne s'y trouveront point, mais les rachetés y marcheront, donc les rachetés, hein, ceux dont l'Éternel aura payé la rançon, voilà. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée chapitre 2, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, ceux dont l'Éternel aura payé la rançon, c'est bien entendu ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec un chant de triomphe. Une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, et la douleur et le gémissement s'enfuiront. Donc, plus de violence, plus de souffrance, plus de tristesse, une assurance du salut, voilà, le fait qu'on soit racheté, on est racheté en Jésus-Christ, c'est l'évangile qui est là, en Ésaïe 35. Donc, quand on a en acte 3, donc à l'époque, et aujourd'hui encore, parce qu'on peut lire cette chose-là, quand on est témoin d'un tel événement, une guérison miraculeuse comme ça, on se souvient d'Ésaïe. Ésaïe prévoyait la guérison miraculeuse. Et quand on regarde ce qu'il y a après, et on se dit, les gens qui sont porteurs de cette guérison miraculeuse sont aussi porteurs de l'évangile. C'est ça la légitimité. C'est pour ça qu'en fait les miracles légitiment les apôtres, les miracles rendent des apôtres légitimes, parce que on voit que ces choses-là vont ensemble. Guérison miraculeuse va avec l'évangile. Évangile spirituel. Donc, pour finir, au verset 7, ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, donc il n'y a pas de délai, voilà, c'est comme la guérison, elle est instantanée, et à l'instant, la plante de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc la guérison du monsieur, elle est instantanée, c'est comme le salut c'est instantané, au moment où on croit, on est sauvé. Au verset 8, et sautant, donc ça c'est génial parce qu'il se met à sauter, là, vraiment il vit. C'est comme quand Jésus dit que en Jean chapitre 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Il nous donne la vie éternelle, mais en plus il veut qu'on se réjouisse et qu'on saute et qu'on vive, voilà, qu'on vive pleinement. Et c'est ce qui est dit au verset 8, acte 3, verset 8, et sautant. Donc là, il manifeste sa joie, il saute, il en profite, parce qu'il n'a jamais sauté de sa vie. Et sautant, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux dans le camp, marchant, sautant et louant Dieu. Quelqu'un qui a été guéri, après avoir été guéri, il est joyeux, il loue Dieu. Ben nous, pareillement, après avoir été sauvés, on est joyeux. Sauvés spirituellement, on est joyeux, donc on devrait louer Dieu avec joie. Et c'est ce qu'on fait dans nos églises. Voilà, donc la consolation des pauvres. Donc, il y a des pauvres. Jésus même a dit, donc, en conclusion, hein, Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Mais il a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Donc des pauvres, il y en aura toujours. Le Seigneur veut qu'on assiste les pauvres. Pauvres, infirmes, ça va ensemble. Ne pas confondre pauvres et paresseux. Voilà. Mais le Seigneur veut qu'on assiste les pauvres. Et la consolation du pauvre... Alors, on n'a pas fini, hein, il y a d'autres choses, hein, mais on va devoir s'arrêter. La consolation du pauvre, c'est que pauvres ou riches... Spirituellement, ils ont le même statut, ils peuvent quand même, même si vous êtes pauvre, votre consolation, c'est que vous pouvez quand même apporter quelque chose d'inestimable au monde, et cette chose-là, c'est l'évangile. Que vous soyez pauvre, ben ça ne vous freine pas du tout pour apporter l'évangile au monde. Pourquoi est-ce que je suis infirme? Pourquoi est-ce que j'ai subi ces choses-là? Pourquoi Dieu permet-il que je subisse ces choses-là? Une des raisons, c'est que il faut qu'il y ait de la souffrance pour légitimer les apôtres dans leur action. Et quelque part, ça nous pousse à nous attendre à Dieu. Parce que s'il n'y avait pas de souffrance, on n'aurait pas besoin de Dieu et on ne s'attendrait pas à Dieu. Voilà. Mais là, surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait qu'il y ait des pauvres et des infirmes pour légitimer l'action de Dieu et pour prouver que l'action de Jésus et ensuite l'action des apôtres était vraiment venu de Dieu. On verra d'autres explications. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Pourquoi Dieu a-t-il permis que je sois infirme? On verra ça la prochaine fois. Voilà. Merci et que Dieu vous bénisse et vous garantisse une bonne semaine.